après cette semaine, la belle victoire de la France, hein, contre la Suisse. J'ai oublié. Voilà. Voilà. Alors, c'est un pays qui revit parce qu'elle voit la France jouer un beau jeu. Mais moi, je vais être encore plus fier de mon Dieu qui a joué et joue un jeu magnifique dans ma vie, dans notre vie, dans ce monde. Voilà. Hein, le jeu de Dieu, le travail de Dieu est tellement magnifique comme la prier. Non, ça va, on peut l'arrêter. Oui. Voilà. Quand je vois ce pays qui éclate pour la France, je me dis, un jour, je veux voir mon pays qui éclate d'admiration, d'émerveillement devant ce Dieu merveilleux, ce Dieu beau. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'un livre passionnant de la Bible que je suis en train d'étudier, le Cantique des Cantiques. Alors Dieu m'avait conduit déjà il y a quelques mois dans un temps de désert où à Bouvines, où je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois étudier? Quel est le livre que je dois étudier? Puis j'ai reçu Cantique des Cantiques. Et Dieu m'avait vraiment déjà parlé très fortement. Quand je dis quelques mois, c'est même 2 ans, à peu près. Et en mars dernier, au début des 10 jours de prière au Château Blanc, il y avait sur une petite table un commentaire sur ce livre, 200 pages, sur ce livre, amené par Thierry. Vous savez, Thierry qui est venu jouer de la guitare et qui travaille pour la maison de prière à Kansas City aux États-Unis. Et donc ce commentaire, en fait, est un commentaire écrit par Mike Bickle, j'espère que je prononce bien, hein, je sais pas, bon, qui a fondé cette maison de prière, qui a fondé cette maison de prière à Kansas City aux États-Unis. Et il y en avait que 2 ou 3 sur la table. Alors j'ai une petite voix qui m'a dit, prends-le vite parce que sinon tu ne l'auras plus. Alors j'ai vite pris ce recueil. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je dis quelques mots sur Mike Bickle. En 1988, alors qu'il méditait sur ce livre, il a expérimenté une présence de Dieu très forte, d'une manière unique. Et le Seigneur lui a dit qu'il allait déverser sa grâce pour permettre aux chrétiens de marcher dans la réalité du Cantique des Cantiques. Et que cette onction allait se répandre dans le monde entier et toucherait le corps du Christ juste avant son retour. Pas étonnant, quand vous allez voir quel est le thème de ce livre. Alors, une question se pose tout de suite, comment interpréter ce livre? Comment interpréter ce livre? Il y a bien sûr une interprétation naturelle. Ce livre est une histoire d'amour entre le roi Salomon et son épouse, une jeune Sulamite. Et donc ce livre met en valeur la beauté de l'amour conjugal. Ça, c'est l'interprétation naturelle. Mais il y a aussi une interprétation spirituelle. Donc ce livre peut être interprété symboliquement comme un parcours d'amour entre Dieu et son peuple. Tout au long de notre vie, nous vivons un mouvement de va-et-vient entre des saisons de bénédiction et des saisons de test. Et elles sont décrites dans ce livre, Cantique des Cantiques. Et donc ce livre peut nous permettre de recevoir une compréhension plus profonde de notre relation avec Jésus. Et donc je vais vous proposer dans quelques instants quelques étapes de ce parcours, si vous êtes d'accord. Hein. Quelques étapes, on va se retrouver, on va s'identifier. On va s'identifier dans ce parcours. Alors je voudrais souligner quelques points qui caractérisent ce livre aussi avant. Cantique des Cantiques, c'est un chant. Et c'est le chant le plus prestigieux de la Bible. Il y a le chant de Moïse, il y a plusieurs chants dans la Bible, mais celui-là, c'est le plus prestigieux. J'aimerais dire aussi que Jésus est exalté dans toutes les Écritures. Souvenez-vous, quand Jésus ressuscité a rencontré les disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui est dit de lui. Donc, le Cantique des Cantiques ne fait pas défaut. Il parle de Jésus, le Cantique des Cantiques. L'Esprit Saint a inspiré toutes les Écritures et exalte Jésus. Les trois personnages principaux du livre du Cantique des Cantiques, quels sont les trois personnages principaux? Le roi Salomon, et dans l'interprétation spirituelle, il est une image de Jésus ressuscité, triomphant, roi des rois. Il y a la jeune Sulamite, et dans l'interprétation spirituelle, est une image de l'épouse du Christ. Elle nous est présentée comme une jeune femme qui grandit pour devenir une épouse mature, qui vit un plein partenariat avec Jésus. Troisième personnage, les filles de Jérusalem. Et dans l'interprétation spirituelle, elles représentent les croyants immatures. Elles s'attendent à la Sulamite pour recevoir des réponses sur le moyen de grandir dans leur proximité avec le roi. Alors on va faire ensemble un peu ce parcours, quelques étapes, pour qu'ensemble on progresse dans la passion pour Jésus. Et ça c'est le titre de mon message ce matin. Progresser dans la passion pour Jésus. C'est bien parce que les premiers chants, tout à l'heure, c'était vraiment dans cette direction, hein. Progresser dans la passion pour Jésus. Alors je vous dis tout de suite, en toute humilité, je donne ce message en toute humilité. Je ne suis pas au bout du parcours. Moi, personnellement, je ne suis pas au bout. Mais ce livre du Cantique des Cantiques m'encourage. Et j'espère qu'il va vous encourager à poursuivre votre parcours. Vous êtes conscient que vous êtes dans un parcours? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'on est conscient qu'on est dans un parcours? Et qu'on doit, comme si on avait un col à gravir, hein, j'ai souvent aimé en vacances aller gravir des petits sommets, est-ce qu'on est en train de, on a conscience qu'on est en train de gravir un sommet, qu'on a un parcours jusqu'à ce rendez-vous d'amour avec notre époux. Alors, je vais prier, et pour une fois, je vais vous lire une prière. Elle m'est tombée dessus, je ne sais plus de quand, mais j'ai eu un petit papier avec ce bout de prière. C'est une prière écrite par une croyante contemporaine. Et je l'ai trouvée extraordinaire et adaptée pour ce qu'on va vivre maintenant. Alors si vous voulez, on va fermer les yeux, puis je vais faire cette prière. Je crois qu'il n'y a pas que nos prières qui sont inspirées. Il y a d'autres prières aussi, venant d'autres qui sont inspirées. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier, on va vraiment demander que le Seigneur nous encourage dans notre parcours avec lui ce matin. Seigneur, puisque tes paroles ne sont pas faites pour rester inertes dans nos vies, mais pour nous posséder et pour courir le monde en nous, permets que de ce feu de joie allumé par toi, jadis sur une montagne, et de cette leçon de bonheur, des étincelles nous atteignent et nous mordent, nous investissent et nous envahissent, fait que comme des flammèches dans les chaumes, nous courions les rues de la ville, nous longions des vagues de foule, contagieux de la béatitude, contagieux de la joie. Et je pense qu'il y a des enfants qui sont parmi nous là. Hein. Et rappelez-moi vos prénoms. C'est quoi vos prénoms? Oui? Steve et Hicham. Bienvenue, hein. Bienvenue ce matin. Hein, si vous êtes venus, peut-être vous avez été pris par la contagion de la joie qui était là hier, hein, à la fête de la musique. Contagion de l'amour, certainement. Hein. Voilà. Alors, on commence ce parcours? Quelques étapes. Rassurez-vous, ça ne va pas prendre trois quarts d'heure, hein, ça prendra peut-être une petite demi-heure, pas plus. Première étape, vous avez votre livre, voilà, Cantique des Cantiques, vous l'avez, c'est bon? Vous l'avez ouvert? Oui? Allez, c'est bon. Premier chapitre, verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. C'est déjà très fort, hein. Son amour vaut mieux que le vin. La bouche du roi parle de sa parole. La bouche du roi parle de sa parole. Le parcours de l'épouse commence par l'intense désir de recevoir les baisers de la parole de Dieu. La requête ultime de l'épouse au Père, c'est ce baiser divin de la parole. Dieu nous a créés pour avoir faim et pour avoir faim de lui, faim de sa parole. Une parole qui révèle aussi les émotions du roi, hein, envers nous, on va voir. J'ai trouvé intéressant là, dans le commentaire de Mike Michael, il dit que le cri de l'épouse pour les baisers de la parole est un cri en trois parties. Première partie, ce cri est prophétique. Prophétique parce qu'il révèle l'endroit où l'Esprit conduit l'Église dans les nations. L'Esprit veut, avant que Jésus revienne, veut restaurer le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Voilà. Dieu veut restaurer, l'Esprit Saint veut restaurer cela. Et donc ce cri, il est prophétique parce qu'il montre ce désir de Dieu de restaurer ce premier commandement. Mike Buckle dit aussi que ce cri est philosophique parce qu'il provient de l'esprit humain et répond au pourquoi de notre existence, pourquoi je vis sur la terre, pour aimer Dieu et pour aimer mon prochain. Le but de notre vie, c'est d'expérimenter l'intimité avec Dieu. Et la définition du succès, on peut nous dire un tas de choses sur ce qu'est le succès autour de nous, mais ce cri, il est philosophique, il nous rappelle que la définition du succès, c'est d'être quelqu'un qui aime Dieu entièrement. Odette est d'accord. Merci Odette. Voilà. Ouais. Troisièmement, ce cri est psychologique. Il nous révèle la manière dont notre cœur fonctionne, sa manière d'expérimenter la vraie joie et d'être pleinement satisfait. Dieu nous a créés avec la capacité d'expérimenter son amour. Et c'est là que le cœur humain trouve le plus grand plaisir. Je me souviens, salle de l'Éden, on avait reçu un monsieur qui s'appelle Georges Elkoury. Ça vous dit quelque chose? Et ce monsieur avait une vie dissolue. Il dit, si vous savez le nombre de femmes que j'ai connues. Mais il a dit, quand j'ai expérimenté l'amour de Dieu, le plaisir que j'ai eu dépasse tous les plaisirs que j'ai pu avoir. Ouais, ça m'a frappé. Lorsqu'on cesse d'aimer Dieu, avec un cœur passionné, notre vie émotionnelle perd son équilibre. Nous, on a été créés de telle manière que nous ne pouvons pas fonctionner correctement si nous ne dévouons pas complètement notre vie à Dieu. Et Mike Bakel a dit ceci, si on n'est pas prêt pour mourir pour une cause, oula, je dis bien, hein, si on n'est pas prêt pour mourir pour une cause, nous ne sommes pas prêts à vivre pour elle non plus. Et beaucoup dans le corps du Christ peuvent souffrir d'ennuis spirituels parce qu'ils ne sont pas passionnés dans leur poursuite pour l'amour de Dieu. Alors cet appel à recevoir les baisers de sa bouche est suivi d'une autre déclaration, « Ton amour vaut mieux que le vin ». Le vin nous parle des meilleures expériences qu'on peut vivre dans le monde naturel. Hein? Et vivre l'amour de Dieu au niveau de nos émotions vaut mieux que tous les autres privilèges de notre vie. Voilà, on va un peu plus loin, verset 5 du premier chapitre. Qu'est-ce qu'il est dit ? « Je suis noire, mais je suis belle. » D'autres traductions disent « charmante ». Fille de Jérusalem. Alors la noirceur de la peau de la Sulamite nous parle certainement de notre noirceur intérieure. La noirceur du péché chez l'épouse et de son immaturité aussi. Hein. Dieu nous trouve aimables même lorsqu'il voit nos faiblesses. Ça, on a besoin. Ça fait du bien. Dieu nous trouve aimables, même lorsqu'il voit nos faiblesses. C'est le paradoxe de la grâce. Hein. Plusieurs fois, l'époux déclare à son épouse, « Tu es belle, tu es belle, tu es charmante, ma colombe, ma parfaite. » Voilà. Et le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que l'immaturité n'est pas de la rébellion. Hein. 1 amour faible ne veut pas dire qu'il est faux. Et si on confond immaturité et rébellion, qu'est-ce qu'on va faire ? On va condamner. On va se condamner soi. On regarde nos faiblesses, oh là là, ouais. Et on se condamne, et on va condamner les autres. Oh, lui, il n'est pas mûr. Oh. Ouais. Donc ne pas confondre immaturité et rébellion. Jésus a aimé ses disciples immatures. Il les aimait dans leur immaturité. Est-ce qu'il voyait d'avance comment ils deviendraient ensuite ? Et il les voyait avec les lunettes de l'éternité, qu'il serait toujours dans son royaume avec lui, dans la perfection. Ouais. Juste avant sa mort, il leur a dit, « Bon, vous allez tous être une occasion de chute, bande de paresseux, bande de lâcheurs. » Non, il ne leur a pas dit ça. « Vous serez tous une occasion de chute, mais... » Je vous précéderai en Galilée. Il ne les condamne pas. Il sait d'avance qu'ils vont tous le laisser tomber. Mais il ne les condamne pas. Mais je vous précéderai en Galilée. Ouais. Jésus ressentait une profonde compassion pour ses disciples. Même s'il y a d'autres moments, peut-être il a manifesté une impatience. Quand même, hein. Jésus savait que la seule chose qui amènerait la stabilité dans leur vie, c'est de savoir ce qu'il ressent pour eux. Jésus, dans Jean 15, nous dit « Je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Je vous aime comme le Père m'aime. C'est extraordinaire, ça. Hein? On a besoin de réaliser ce que Dieu ressent pour nous. Il est absolument nécessaire pour notre croissance spirituelle de savoir que nous sommes charmants pour lui alors que nous découvrons notre nature pécheresse. Si on met l'accent sur cette partie de la vérité de la dépravation de notre cœur, sans accentuer la vérité selon laquelle nous sommes charmants pour Dieu, ça va détruire notre confiance lorsque nous nous présentons devant Dieu. Et ça amène le croyant à être conduit par la honte. Alors Huguette, tu es belle aux yeux de Dieu. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Tu es charmante. On peut se dire ça chacun. Je suis charmant pour Dieu. Je suis beau. Je suis beau pour Dieu. Voilà. Ouais. Voilà, lorsqu'on traverse une crise de foi, eh bien, beaucoup peuvent courir loin de Dieu parce qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas ce que Dieu ressent pour eux. Ouais. Dieu voit la chair faible, c'est vrai, mais il voit notre esprit bien disposé. C'est comme ça qu'il a redressé, Jésus a redressé Pierre. M'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime, hein? Un Pierre a dit, tu sais que je t'aime. Au revoir les garçons. Il l'a pas enfoncé. Ah, tu m'as renié, tu te rends compte, tu m'as renié 3 fois. Allez, je te fais confiance. Allez, paie mes brebis. Allez, repars. Ouais. Repars. Ouais. Il fait confiance. Dieu voit notre esprit bien disposé. À nous d'en prendre conscience. Hein. Le Seigneur ne veut pas que je démissionne à cause de la honte. Je suis sûr que si je demandais aux mains de se lever maintenant, est-ce que vous avez été tenté de démissionner à cause de la honte? Moi, je lève ma main. Il y en a d'autres? J'ai déjà été tenté de démissionner à cause de la honte. Oui? Je vois des petits doigts qui se lèvent. D'accord. Ouais. Le Seigneur ne veut pas que je démissionne. Et il n'y a rien de plus puissant sur la terre que de se sentir aimé. Une telle personne, hein, qui se sent aimée, aimera avec ténacité. Et Dieu est en train de lever une église qui se sent propre, une épouse qui se sent propre, digne, désirée. Et en qui Dieu prend plaisir. Allez, on va plus loin. Verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Chapitre 2, un tout petit peu plus loin, versets 3 et 4. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Voilà. C'est magnifique ce cantique des cantiques. Hein. L'épouse trouve son identité dans la beauté de Jésus. Est-ce que nous trouvons notre identité dans la beauté de Jésus? Notre beauté est étroitement liée à la nature des émotions de Dieu. Ouais. Ouais. Amen. Ouais. Voilà. Oui. Voilà, tout à fait. C'est ce que Dieu pense de nous. Hein. C'est pas ce que les autres pensent de nous, même ni nous-mêmes ce qu'on pense de nous. Hein. Voilà. Notre beauté se trouve dans les yeux de celui qui nous regarde. Notre beauté se trouve dans les yeux de Jésus qui nous regarde. Ouais. Voilà. Amen. Oui. Amen. On doit dire à la terre entière sur la personnalité de Jésus. Nous devons prêcher sur le Dieu qui est beau. On doit prêcher sur le Dieu qui est beau. Vous êtes d'accord? On doit prêcher sur le Dieu qui est beau. Voilà. Rempli de bienveillance, parfumé de la bonne nouvelle. Hein. Dans Romains 2,4, on s'aperçoit que la bonté de Dieu, quelquefois, dit, faut, on ne parle pas assez d'enfer. C'est vrai qu'il ne faut, faut pas négliger d'en parler. Mais sur quoi allons-nous mettre l'accent? Si on met l'accent sur la, le péché, la noirceur du péché, la noirceur du péché, on va, les gens vont être conduits par la honte. Parce que Romains, Paul, dans Romains 2, dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ouais. Amen.
Il y a beaucoup à recevoir de lui. Ce n'est pas forcément des biens matériels, mais des valeurs
Amen.
Et ceci est en Jésus-Christ. La vraie richesse est celle du cœur.
Amen. Merci Odette. Je suis aidé dans ma prédication aujourd'hui. C'est super. Voilà. Et la maison du vin nous parle du désir de Dieu qu'on festoie avec lui. Et à sa table, y compris dans les moments de difficulté. Hein, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. D'accord? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Allez, on va plus loin. Cantique 2, versets 13 et 14. Lève-toi, mon ami, ma belle, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Ah, quand on est dans la honte, on se cache. Hein. Quand on est dans la honte, quelquefois, on se cache. C'est nous, ça. Hein. C'est nous. Puis on voit Dieu qui veut nous emmener sur les montagnes, Jésus qui veut nous emmener sur les, sur, et sur les sommets. Et on voit là que l'épouse laisse partir le bien-aimé. Elle ne croit pas avoir la force de le suivre. Elle, donc, elle ne quitte pas sa zone de confort. Oui, et l'épouse se trouve dans une étape où ses sécurités sont défiées. Et c'est nous, ça, quelquefois. Hein. On est parfois dans cette étape où nos sécurités sont défiées. Le Seigneur veut nous emmener plus loin. On a été fait pour aller vers les sommets avec Jésus. Hein. Mais on a peur. J'aurais pas la force de le suivre. Voilà, donc vous voyez, on peut s'identifier là, hein, dans ce parcours. On peut s'identifier, vraiment. C'est nous, ça, hein. Elle n'a pas suffisamment confiance. Elle le laisse repartir et elle le recherchera à nouveau ensuite. Hein. Mais le refus de l'épouse est dû à l'immaturité et à la crainte. Elle aime son époux, mais ne pense ne pas avoir la force de lui obéir. Alors l'époux la corrige en cachant sa présence. Mais sa correction n'est pas du rejet. Même lorsqu'on lutte avec nos peurs, le Seigneur continue de nous aimer et nous révèle sa tendre affection pour nous. Un peu plus loin, au chapitre 4, versets 9 et 10, un magnifique verset qui montre vraiment là ce que Dieu ressent. Non seulement il nous trouve charmants, mais il est ravi. Il est ravi. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. C'est fort quand même. C'est incroyable. Oui? T'as une autre version? Oui? Vas-y.
Tu me fais perdre le sens.
Tu me fais perdre le sens. Waouh. Voyez. Le Seigneur est troublé en nous regardant. Il a tellement d'émotions qu'il en est troublé. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. comme ton amour vaut mieux que le vin. L'épouse va plus loin dans ses révélations. Elle découvre le cœur ravi de Dieu, l'époux. Elle découvre la passion qui est dans le cœur de l'époux. On va grandir dans la passion pour Jésus au fur et à mesure qu'on comprend la passion qui remplit son cœur pour nous. La révélation du désir de Dieu fortifie notre désir. Plus on voit le cœur de Dieu nous concernant, plus nous voyons son cœur qui est aussi ravi par les autres. Ah, ça, c'est bon de le savoir dans des difficultés relationnelles, un moment. Quand on traverse des difficultés relationnelles, c'est bon de savoir que le Seigneur est ravi par tous ses enfants. Dieu veut que nous voyions la beauté de l'Église. Est-ce que vous êtes émerveillé devant la beauté de l'Église? Ouais, l'Église est belle. Quand elle est en train d'adorer le Seigneur, quand elle est en train de vivre l'amour, l'Église est belle, magnifique. Voilà. Nous devons prier pour recevoir la révélation que nous sommes l'héritage de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir. Ouais. J'avais compris que Jésus est mon héritage, mais que moi, je suis l'héritage de Jésus. C'est énorme. C'est énorme. Je suis son héritage. L'Église est son héritage. Incroyable. Incroyable. Hop là. Excusez-moi. Alors, on va voir que l'épouse, elle grandit dans la confiance. Elle l'a laissé partir, là, elle n'a pas réussi à le suivre sur les sommets, mais sa confiance va grandir. Ouais. Elle invite son bien-aimé à entrer dans son jardin. Et le jardin, c'est le cœur, c'est son cœur, hein, bien sûr, c'est l'image du cœur. Elle semble ne plus avoir peur des tests. Mais elle va vivre une autre étape. Une étape où son ministère va être rejeté. Cantique chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Les gardes qui sont dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Les gardes la rejettent. Et donc, dans notre parcours d'amour avec le Seigneur, il peut y avoir un temps où notre ministère est rejeté. Pas forcément par tout le monde, mais par certains. Mais elle passe le test avec succès. Elle continue d'aimer. Elle dit aux filles de Jérusalem, je vous en conjure, si vous rencontrez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. Le Seigneur demande à sa bien-aimée, et il nous demande à nous aussi, seras-tu à moi, même si je retiens les choses que tu désires ardemment? Seras-tu à moi, même si je retiens les choses que tu désires ardemment? Seras-tu à moi, même lorsque tu ne sentiras plus ma présence? Seras-tu à moi, même lorsque tu seras déçu par les circonstances? Mais si son ministère est rejeté par certains, par d'autres, d'autres sont interpellés. Puisque dans le chapitre 5, verset 9, certains lui disent, mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ou en quelque sorte, mais pourquoi est-ce que tu continues à l'aimer encore, malgré le rejet que tu vis? Ainsi, si nous sommes rejetés par certains, pour d'autres, nous sommes rendus encore plus beaux et interpellés. Et d'autres sont vraiment interpellés à dire, mais qu'est-ce qu'il a ton Jésus de plus qu'un autre? Et sont attirés. Ouais. Alors, j'avance, j'arrive presque à la fin. chapitre 7. Oui, j'aimerais juste dire que l'épouse est quand même justifiée par des saints qui ont du discernement, hein, et qui remarquent cette passion. C'est vraiment, ça vient de Dieu, ça vient du Seigneur. Hein. Chapitre 7, versets 12 et 13. « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. » Voilà. L'épouse, là, démontre vraiment un partenariat avec Jésus. Un partenariat mature. Elle soupire, en même temps qu'elle soupire à être proche du Seigneur, elle soupire à servir les gens dans le ministère, en partenariat avec Jésus. Et il nous faut absolument l'équilibre. Notre passion a toujours deux facettes, comme le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord ? L'équilibre est atteint lorsqu'on a une passion pour Jésus, mais que nous sommes aussi dans la compassion pour les gens. Et parce que la course pour Jésus, elle produit des conflits, hein, du rejet, de la persécution, beaucoup s'épuisent rapidement. Ouais. Et il y a le risque alors uniquement de se concentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Ouais. L'intimité doit toujours être le point de départ, mais avec l'intimité, toujours la compassion pour les gens. Attention à toujours à l'équilibre. Hein. Quelle que soit la saison dans notre vie, on doit toujours être attiré vers Jésus, l'intimité, mais courir derrière lui. Mais attention, c'est lui, le Seigneur, qui décide de la cadence. Hein. Et on voit une progression remarquable dans le... Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est Mike Bickle, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment. Je ne l'aurais pas découvert moi-même. Une progression remarquable dans le Cantique des Cantiques, avec quatre déclarations qui montrent cette progression. Au chapitre 1, verset 13, l'épouse dit « Mon bien-aimé est pour moi ». Au chapitre 2, verset 16, elle dit « Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui ». Au chapitre 6, verset 3, elle dit la même chose, mais dans l'ordre différent. « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Et au chapitre 7, verset 11, elle dit « Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. » Il y a vraiment une progression. La première déclaration, c'est celle de son propre plaisir, voilà. Mais Jésus l'accepte comme un endroit de départ, hein, dans la grâce de Dieu. Voilà. Deuxième déclaration, elle dit, il est à moi, il m'appartient, mais je réalise que je lui appartiens aussi. Mais ce n'est pas encore ma priorité. Et troisième déclaration, elle dit les mêmes mots, mais elle change l'ordre. Elle dit, c'est d'abord son agenda en premier, puis le mien en second. Ses propres intérêts sont en second plan. Et quatrième déclaration, elle dit, je lui appartiens. Ce qu'il désire fait l'objet de toutes mes préoccupations et le fait que ses désirs se portent sur moi me pousse à m'assurer que je suis à lui à 100%. Il y a une progression. Alors on est appelé à vivre cette progression. Hein. Mon bien-aimé est à moi. Ça fait rire Huguette. Deuxième déclaration, mon bien est à moi, je suis à lui. Troisième déclaration, je suis à mon bien-aimé, il est à moi. Quatrième déclaration, je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Ouais. Voilà. Alors, on arrive pratiquement à la fin. Chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Jésus invite l'épouse à recevoir un sceau de feu sur son cœur. Il nous appelle à l'inviter, lui, comme un Dieu jaloux. Comme le Dieu de l'amour ardent. Alors nous devons l'inviter, il ne peut rien imposer. Hein. Jésus, en tant que Dieu, nous veut complètement à lui. Complètement. Et le sceau de feu, c'est une communication progressive du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui déverse en nous l'amour de Dieu. Et elle s'écrit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. L'amour de Dieu, lorsqu'on s'y donne continuellement, est plus fort que les fleuves ténébreux du péché, de la tentation. Tout le monde peut abandonner, excepté celui qui aime. Lorsqu'on est tenté d'abandonner, l'obstacle qu'on va rencontrer, c'est l'amour de Dieu. Alors, enfin, dernière étape, chapitre 8, verset 5, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Voilà, l'épouse est appuyée sur Jésus, son bien-aimé. Elle est fortifiée par l'amour, par sa gratitude. Il y a cette phrase extraordinaire là que dit Mike Bickle. L'Église achève l'histoire naturelle, le cœur rempli d'amour, appuyé sur Jésus. Victorieuse dans l'amour, elle monte du désert. Elle ressort victorieuse de l'épreuve et des difficultés qu'elle a expérimentées dans ce monde déchu. Alors, j'en arrive à la conclusion. Vous savez, quand j'ai étudié ça, j'étais donc à Bouvines, et quelques mois auparavant, j'avais aussi préparé quelque chose, et à chaque fois, le Seigneur me donne une illustration. Il y a plusieurs mois, je vous avais parlé, vous vous souvenez de mon dernier message d'un homme, il est là, il s'appelle Jacques Fesch. Voilà. Jacques Fesch est un Français, un des derniers condamnés à mort en France. À la fin, j'en ai parlé la dernière fois. Donc dans les années 50, 57, 58. Condamné à mort pour un braquage qui a causé la mort d'un gendarme. Ouais. Et cet homme s'est converti en prison. Et je suis tombé sur son livre il y a quelques mois, Monastère de Bouvines, dans la bibliothèque. Et donc il y a deux livres qui ont été écrits sur lui, Lumière sur l'échafaud et également Dans 5 heures je verrai Jésus. Il a écrit un journal et dans ce journal, on s'aperçoit qu'il est mort en amoureux de Jésus. Il y a eu des combats, hein, mais il est mort en amoureux de Jésus. Et il a écrit dans son propre journal, « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Il était plein de paix, de sérénité, avant d'avoir la tête tranchée. Ah, moi, ça m'a parlé. Je lui ai dit, mais on a des témoins. Il n'est pas très connu, on n'en parle pas tellement. Hein. Voilà, un saint ordinaire. Et alors, quand j'ai préparé le livre du Cantique des Cantiques, le Saint-Esprit m'a amené de nouveau dans la bibliothèque. Et j'ai lu le récit d'une jeune fille qui s'appelle, une jeune italienne, Chiara Luce. Elle est, voilà. Et j'ai lu son récit incroyable. Vous voyez, elle est tout sourire. Elle est morte en amoureuse de Jésus aussi. À 18 ans. D'un cancer fulgurant des os. Donc, ce cancer a démarré une année et demie, 2 ans avant sa mort. Ouais. Mais elle avait 12 ans, elle faisait partie d'un mouvement de jeunes chrétiens. Et quand elle avait 12 ans, elle a découvert qu'elle devait se préparer à rencontrer Jésus, son époux. Incroyable. Ouais. Elle avait un rayonnement incroyable. Il y avait 2000 personnes à son enterrement. Dans un petit village dans la région de Gênes. 1000 personnes, la plupart étaient dehors, quoi. La plupart étaient dehors. Et tous ceux qui ont assisté à son enterrement ont dit que ce n'était pas une atmosphère d'enterrement. C'était une fête de noces. Incroyable. Et elle a dit elle-même, elle a donné comme consigne à sa maman, quand je serai partie, rassure-toi, sache que je serai avec Jésus. Et je veux que tu me mettes un vêtement blanc de mariée. Ouais. Et quand j'ai lu son histoire, j'ai lu à la fin du livre que même 10 ans après sa mort, sa vie, son rayonnement suscitait des vocations. Ouais. Et je termine avec cette conclusion, voilà, justement. Personne, vous n'avez pas entendu parler de cette jeune fille. Hein. Bon, si vous allez sur Internet, quand même vous allez trouver et Jacques Fesch et Chiara Luce, vous allez pouvoir prendre des renseignements sur leur vie. Mais ils ne sont pas très connus. Nous sommes appelés, vous et moi, à être ces saints ordinaires qui ne seront peut-être pas célèbres, mais dont la passion va susciter, la passion pour Jésus va susciter des vocations. Amener des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, à entrer dans cette passion pour Jésus. C'est vraiment la prière que je fais. Que notre vie passionnée suscite des vocations, des années même après notre mort. Notre passion pour Jésus, elle est prophétique dans ce sens. Elle est prophétique. Elle parle de ce grand rendez-vous d'amour. Elle parle de la passion de Dieu pour nous. Elle est une image de la passion du cœur de Dieu pour nous. Alors j'aimerais prier, si vous voulez bien, juste pour terminer. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et peut-être vous pouvez vous associer donc à cette prière toute simple. Seigneur, merci de nous avoir donné toutes les Écritures qui nous parlent de toi. Merci pour la révélation du Cantique des Cantiques qui nous parle du roi époux. Un roi passionné et ravi par son épouse. Seigneur, quelle grâce et quel glorieux mystère. Nous sommes ta fiancée, appelée à se préparer pour être cette épouse, sans tache ni ride. Nous sommes ton héritage. Ouais. Seigneur, que ta passion, ton désir ardent alimente notre propre passion pour toi. Qu'elle nous pousse à poursuivre notre parcours avec foi, avec enthousiasme, notre parcours d'amour jusqu'à l'abandon total. Qu'elle nous pousse à t'inviter comme un feu ardent dans nos vies, dans cette assurance vraiment que l'amour, cet amour triomphera de tous les obstacles, de toutes les ténèbres, de toutes les tentations. Amen. Voilà, j'espère que vous avez été encouragés dans ce parcours, hein, vraiment à poursuivre, d'accord. Et allez sur Internet et vous pouvez regarder, hein, vraiment, et lire des choses sur la vie de ces deux personnes extraordinaires. Voilà.